Chapitre 12. Cher président Obama, j'ai reçu un avis aujourd'hui m'annonçant qu'à compter du 30 juin 2009, je rejoindrai le nombre en rapide augmentation des chômeurs de ce pays. En mettant mes enfants au lit ce soir, luttant contre la panique qui menace de me consumer, je me suis rendu compte qu'en tant que parent, je n'aurais pas les opportunités dont ont bénéficié mes propres parents. Je ne peux pas regarder mes enfants et leur dire en toute honnêteté que si on travaille suffisamment dur et qu'on fait suffisamment de sacrifices, alors tout est possible. J'ai appris aujourd'hui qu'on peut faire tous les bons choix, tout bien comme il faut, et pourtant cela ne suffira pas, parce que votre gouvernement vous a lâché. Mon gouvernement a pourtant beaucoup parlé de protéger et d'aider la classe moyenne américaine, mais ce que j'ai vu, c'est tout le contraire. Je vois un gouvernement qui a servi les lobbies et les groupes d'intérêt. Je vois que des milliards de dollars sont dépensés pour le renflouement d'institutions financières. Merci à vous de me permettre d'exprimer simplement quelques-unes de mes pensées en cette soirée de grande émotion. Bien à vous, Nicole Brandon, État de Virginie. Je lisais deux ou trois lettres de cet acabit chaque soir. Je les remettais dans le classeur dans lequel elles m'étaient parvenues, le posant sur la pile de papier qui s'entassait sur mon bureau. Ce soir-là précisément, l'horloge comtoise de la salle des traités indiquait 1 heure du matin. Je me suis frotté les yeux, j'ai décidé qu'il me fallait une lampe de bureau qui éclaire mieux, et j'ai contemplé l'imposante peinture à l'huile accrochée au-dessus du lourd canapé en cuir. On y voyait le président McKinley, corpulent, l'air sévère, se tenant comme un proviseur aux sourcils épais, tandis qu'un groupe d'hommes moustachus signait le traité mettant fin à la guerre hispano-américaine en 1898, tous réunis autour de cette table à laquelle j'étais à présent assis. C'était une belle œuvre de musée, mais loin d'être l'idéal pour cette pièce qui était désormais mon bureau particulier. Je me suis dit qu'il faudrait que je la remplace par quelque chose de plus contemporain. À part les 5 minutes où j'avais traversé le vestibule pour mettre les filles au lit et dire bonne nuit à Michel, j'étais resté vissé à mon fauteuil depuis le dîner, comme à peu près tous les soirs de la semaine. Pour moi, c'était souvent les heures les plus calmes et les plus productives de la journée, un moment où je pouvais rattraper le travail en retard et me préparer pour ce qui m'attendait le lendemain, lisant attentivement les piles de documents que ma secrétaire m'avait transmis à la résidence. Les dernières données économiques, des notes appelant une décision, des notes pour information, des synthèses du renseignement, des propositions de loi, des brouillons de discours, des sujets à aborder en conférence de presse. Mais c'est en lisant les lettres de citoyens que je ressentais avec le plus d'acuité le sérieux de mon travail. J'en recevais chaque soir une sélection de 10, certaines écrites à la main, d'autres des emails imprimés, bien rangées dans un classeur mauve. C'était souvent ce que je regardais en dernier avant d'aller me coucher. Ça avait été mon idée, les lettres, une idée qui m'était venue le 2e jour de mon mandat. Je m'étais dit qu'une dose quotidienne de courrier de mes concitoyens serait un moyen efficace de sortir de ma bulle présidentielle et d'avoir directement des nouvelles de ceux que je servais. Les lettres étaient comme une perfusion en intraveineuse du monde réel, un rappel quotidien de mon engagement envers le peuple américain, de la confiance placée en moi et de l'impact humain de chaque décision que je prenais. J'insistais pour avoir un échantillon représentatif. Je ne veux pas juste des lettres joyeuses de la part de sympathisants qui disent que tout va bien, avais-je précisé à Pete Rouse, qui était désormais l'un de mes principaux conseillers et une figure qui, dans l'aile ouest, n'était pas sans rappeler Yoda. À part cela, nous laissions au bureau de la correspondance présidentielle le soin de choisir parmi le flot de quelques 10 000 lettres et emails qui arrivaient chaque jour à la Maison Blanche, lesquelles se retrouveraient dans le classeur. La première semaine, j'ai lu presque exclusivement des courriers positifs, des messages de félicitations, des gens qui me disaient combien la cérémonie de mon investiture les avait inspirés, des enfants qui proposaient des lois, « Vous devriez faire une loi pour réduire les devoirs à faire à la maison. » Mais au fil des semaines, les lettres sont devenues plus sombres. Un homme qui avait exercé le même travail pendant 20 ans décrivait la honte qu'il avait ressentie quand il avait dû annoncer à sa femme et à ses enfants qu'on venait de le licencier. Une femme écrivait à la suite de la saisie de sa maison par la banque. Si elle n'obtenait pas une aide immédiate, elle redoutait de finir à la rue. Un étudiant venait de laisser tomber l'université. Sa bourse ne lui avait pas été versée et il retournait habiter chez ses parents. Certaines lettres faisaient des propositions politiques détaillées. D'autres étaient écrites avec colère. « Pourquoi est-ce que votre département de la justice n'a pas envoyé en prison un seul de ces voyous de Wall Street ?» Ou avec une calme résignation. « Je doute que vous lisiez un jour cette lettre, mais je voulais vous dire que nous, on souffre ici. » Le plus souvent, c'était des appels à l'aide urgents. Je répondais sur une carte à en-tête présidentielle gaufrée expliquant les étapes par lesquelles nous passions pour remettre en marche l'économie, offrant les encouragements que je pouvais. Je balisais alors la lettre d'instruction pour mon staff. « Voir si le Trésor peut trouver avec la banque une option de refinancement », écrivais-je. « Est-ce que le département des anciens combattants a un programme de prêt pour les vétérans dans cette situation ? Ou simplement, est-ce qu'on peut l'aider ?» C'était généralement suffisant pour que l'agence ad hoc se penche sur ce cas. L'auteur de la lettre serait contacté. Quelques jours ou quelques semaines plus tard, je recevrai un mémo de suivi expliquant que des mesures avaient été prises en faveur de la personne concernée. Parfois, les gens obtenaient ce qu'ils avaient demandé. Leur maison provisoirement sauvée, une place dans un programme d'apprentissage. Cependant, il était difficile de tirer satisfaction de ces cas individuels. Je savais que chaque lettre représentait le désespoir de millions d'individus dans tout le pays, que des gens comptaient sur moi pour garder leur boulot ou leur maison, pour retrouver le sentiment de sécurité qu'ils avaient jadis connu. Mon équipe et moi avions beau travailler d'arrache-pied, mettre en place une multitude d'initiatives, j'avais beau faire des discours, les faits étaient sans appel et accablants. 3 mois après le début de ma présidence, plus de gens étaient en souffrance que lorsque j'étais entré en fonction, et personne, moi pas plus que les autres, n'était en mesure d'affirmer qu'une embellie était en vue. Le 18 février, le lendemain de la signature du Recovery Act, j'ai pris l'avion à destination de Mesa, en Arizona, pour annoncer notre plan de lutte contre l'effondrement du marché immobilier. Hormis les pertes d'emploi, aucun aspect de la crise économique n'avait un impact plus direct sur les gens ordinaires. Si plus de 3 millions d'habitations avaient été sous le coup d'une procédure de saisie immobilière en 2008, à une étape plus ou moins avancée, c'était à présent 8 millions de foyers qui étaient en péril. Au cours des 3 derniers mois de l'année, les prix de l'immobilier avaient chuté de presque 20%, ce qui signifiait que même les familles qui arrivaient à honorer leurs échéances se retrouvaient soudain sous l'eau, leur maison valant maintenant moins que ce qu'ils devaient, leur investissement principal n'étant plus qu'un boulet de dette à leur coût. La situation était particulièrement catastrophique dans des États comme le Nevada et l'Arizona, deux des épicentres de l'éclatement de la bulle immobilière liée aux subprimes. Là-bas, on pouvait rouler au milieu de lotissements entiers qui ressemblaient à des villes fantômes. On passait devant des pavillons tous identiques, dont beaucoup étaient encore neufs, mais sans vie, des résidences qui avaient été construites mais jamais vendues, ou alors vendues avant de faire promptement l'objet de saisie. Dans un cas comme dans l'autre, les maisons étaient vides, les fenêtres barricadées de planches pour certaines. Les quelques habitations encore occupées étaient comme de petites oasis, leurs pelouses au format timbre-poste verte et entretenu, voitures garées devant l'allée du garage, avant-poste solitaire avec, en toile de fond, un calme ravagé. Je me souviens d'avoir discuté avec le propriétaire d'une maison dans un de ces lotissements pendant une visite de campagne dans le Nevada. C'était un homme robuste d'une 40aine d'années, en t-shirt blanc, qui avait arrêté sa tondeuse pour me serrer la main pendant qu'un petit garçon blondinet tournait à toute vitesse autour de lui sur son tricycle rouge. Il avait plus de chance que la plupart de ses voisins, m'a-t-il expliqué. Il avait assez d'ancienneté à l'usine où il travaillait pour avoir évité la première vague de licenciements, et sa femme infirmière semblait assurée de garder son poste. Il n'empêche, la maison qu'ils avaient achetée 400 000 dollars au plus haut de la bulle en valait maintenant la moitié. Il se demandait à présent s'il n'aurait pas mieux fait de se déclarer en défaut de paiement et de s'en aller. Vers la fin de notre discussion, l'homme s'est tourné vers son fils. « Je me souviens de mon père qui parlait du rêve américain quand j'étais gamin », a-t-il dit. « Comme quoi l'important, c'était de bosser dur, acheter une maison, fonder une famille, faire les choses comme il faut. Il en est où, le rêve américain ? À quel moment c'est devenu un tas de... » Sa phrase est restée en suspens. Il paraissait affligé. Il a essuyé la sueur de son visage avant de redémarrer sa tondeuse. La question était de savoir ce que mon gouvernement pouvait faire pour aider un homme comme lui. Il n'avait pas perdu sa maison, mais il avait perdu la foi dans l'entreprise commune de notre pays, dans son idéal plus vaste. Les défenseurs des logements à prix modéré et certains réformistes du Congrès prônaient un programme gouvernemental à grande échelle afin non seulement de réduire les mensualités pour les gens risquant de perdre leur maison, mais aussi d'effacer une partie de leur dette restante. De prime abord, l'idée était séduisante. Renflouer Main Street, pas Wall Street. L'Amérique moyenne, pas la bourse, pour reprendre la formule des adeptes de cette mesure. Mais la valeur des biens immobiliers avait si fortement chuté dans tout le pays qu'une réduction du principal aurait eu un coût prohibitif. Notre équipe avait calculé que même une initiative de l'envergure d'un deuxième TARP, ce qui politiquement était impossible, n'aurait qu'un effet limité une fois ventilé sur le marché immobilier américain qui pesait 20 000 milliards de dollars. nous avons décidé de lancer deux programmes plus modestes que j'ai détaillés ce jour-là à Mesa. Le Home Affordable Modification Program, HAMP, visant à diminuer les remboursements mensuels d'emprunts immobiliers pour les propriétaires éligibles, afin qu'ils restent inférieurs à un seuil de 31% de leurs revenus, et le Home Affordable Refinance Program, HARP, qui aiderait les emprunteurs à refinancer leurs prêts immobiliers à des taux plus bas si leur maison était menacée. À dessein, tous les propriétaires ne pourraient pas bénéficier de telles mesures. Ainsi de ceux qui, par les emprunts de subprimes, avaient acheté bien plus que ce que leur permettait leur revenu. Ne seraient pas aidés non plus ceux qui avaient acheté de l'immobilier à titre d'investissement financé par la dette, pensant pouvoir faire du profit en revendant les propriétés. Étaient concernés en revanche les millions de familles sur le point de basculer, celles qui habitaient dans leur maison et avaient effectué ce qui, à l'époque, semblait être un achat raisonnable et qui, à présent, avaient besoin d'un coup de pouce pour s'en sortir. Il y avait toutes sortes d'obstacles logistiques à la mise en œuvre de ces programmes. Par exemple, s'il était dans l'intérêt des créanciers hypothécaires de faire en sorte que les familles restent dans leur maison, dans un marché déjà en récession, les maisons hypothéquées se vendaient à prix bradé, ce qui se soldait par des pertes colossales pour le créancier, les prêts n'étaient plus détenus par un ensemble de banques sur lesquelles nous pouvions faire pression pour qu'elles participent. Au lieu de cela, ils avaient été titrisés, vendus sous forme de fragments épars à divers investisseurs du monde entier. Le propriétaire n'avait jamais directement affaire à ces bailleurs anonymes. Il payait le remboursement de son emprunt immobilier à une société chargée du service de la dette qui fonctionnait quasiment comme une vulgaire agence de recouvrement. En l'absence de tout recours légal, le mieux que nous pouvions faire était de proposer des mesures incitatives pour que ces entreprises se montrent plus souples avec les propriétaires immobiliers. Il nous fallait aussi convaincre ces sociétés de traiter des millions de demandes pour déterminer qui pourrait, ou non, prétendre à l'aménagement ou au refinancement de son emprunt immobilier, alors qu'elles n'avaient pas nécessairement les compétences requises pour cela. Et puis, qui au juste méritait cette assistance de l'État ? Cette question s'immiscerait dans pratiquement chaque débat de fond que nous aurions durant toute la crise économique. Après tout, la situation avait beau être terriblement morose en 2009, la grande majorité des propriétaires immobiliers s'arrangeaient d'une façon ou d'une autre pour s'acquitter de leur remboursement. Pour ce faire, beaucoup rognaient sur leurs dépenses en sortie au restaurant, avaient résilié leur abonnement au câble ou puisé dans les économies qu'ils réservaient en vue de la retraite ou pour les études de leurs enfants. Était-il équitable de consacrer les impôts sur les dollars durement gagnés de ces Américains à réduire le montant des traites d'un voisin qui avait des arriérés? Et si le voisin s'était acheté une maison au-dessus de ses moyens? Et s'il avait opté pour un type de prêt moins cher mais plus risqué? Fallait-il tenir compte du fait qu'un voisin avait été mené en bateau par un courtier hypothécaire alors qu'il croyait bien faire? Et si le voisin avait emmené ses enfants à Disneyland l'année d'avant, au lieu de placer cet argent en lieu sûr pour voir venir en cas de coup dur, méritait-il moins d'être aidé? Ou s'il avait pris du retard dans ses remboursements, non parce qu'il avait creusé une nouvelle piscine ou était parti en vacances, mais parce qu'il avait perdu son emploi, ou parce qu'un membre de sa famille était tombé malade et que l'employeur n'avait pas proposé d'assurance maladie, ou tout simplement parce qu'il n'habitait pas dans le bon état, en quoi cela modifiait-il le calcul moral? Pour les décideurs politiques tâchant d'arrêter une crise, aucune de ces questions n'avait d'importance, du moins à court terme. Si la maison de votre voisin est en feu, vous n'avez pas envie que la personne qui prend votre appel à la caserne vous demande si la cause de l'incendie est la foudre ou quelqu'un qui fumait au lit avant de vous envoyer les pompiers. Vous voulez juste que l'incendie soit maîtrisé avant qu'il ne se propage à votre maison. Les nombreuses saisies immobilières étaient l'équivalent d'un incendie extrêmement grave en train de faire sombrer le cours immobilier et l'économie au passage. Et de notre point de vue, en tout cas, nous étions les pompiers. Cependant, les questions d'impartialité étaient au cœur des préoccupations du grand public. Je n'ai pas été étonné quand des experts ont réagi de manière critique vis-à-vis de notre plan de sauvetage du logement, suggérant qu'une enveloppe de 75 milliards de dollars était bien trop modeste pour faire face à un problème d'une telle ampleur, ou lorsque les défenseurs du droit au logement nous ont éreintés dans la presse, car nous n'avions prévu aucun mécanisme pour alléger le principal des emprunts. Ce que mon équipe et moi n'avons pas vu venir ce jour-là à Mesa, c'est la critique qui a fini par attirer le plus d'attention, peut-être parce qu'elle émanait d'une source improbable. Le lendemain du meeting, Gibbs a signalé un certain Rick Santelli, commentateur économique sur CNBC, qui s'était lancé dans une interminable diatribe contre notre plan pour le logement. Gibbs, dont le radar pour ce genre de choses n'était jamais éteint, semblait soucieux. « Il est très suivi », a-t-il dit, « et les correspondants accrédités m'interrogent à son sujet. Vous aurez peut-être envie de voir de quoi il s'agit. » Le soir, j'ai regardé la vidéo sur mon ordinateur portable. Je voyais bien qui était Santelli. Il ne semblait pas bien différent de tous ces présentateurs qui pullulaient dans les émissions économiques des chaînes câblées, débitant un mélange de ragots du café du commerce et d'infos périmées avec le bagout des présentateurs de publi-reportages qu'on peut voir tard le soir. Cette vidéo, il l'avait tournée en direct du Chicago Mercantile Exchange, un marché à terme, fulminant d'une colère théâtrale, entourée de traders qui, de leur bureau, l'encourageaient d'un air suffisant, tandis qu'il débitait une litanie d'arguments classiques des républicains, y compris l'idée fausse que nous allions rembourser les emprunts immobiliers de paniers percés et d'autres bons à rien irresponsables, Santelli les traitait de pauvres types, qui s'étaient mis tout seuls dans le pétrin. « L'État encourage la tricherie », criait-il. « Combien d'entre vous ont envie de payer pour les emprunts immobiliers du voisin qui a une salle de bain en plus et n'est pas capable de régler ses factures ?» Santelli poursuivait en déclarant que nos pères fondateurs, des gens comme Benjamin Franklin et Jefferson, en voyant ce qu'on est en train de faire dans ce pays actuellement, ils se retournent dans leur tombe. À un moment, au milieu de son monologue, il suggérait une tea party à Chicago en juillet pour mettre le holà au cadeau que l'État donnait par brassé. J'avais du mal à ne pas voir cette histoire pour ce qu'elle était, un numéro passablement divertissant dont l'objectif était non pas d'informer, mais d'occuper du temps d'antenne, de vendre de la publicité et de donner l'impression aux téléspectateurs de l'émission matinale d'analyse économique Squawk Box qu'ils étaient de véritables initiés, et non pas un de ces pauvres types. Qui, après tout, irait prendre au sérieux ce populisme à la noix? Combien d'Américains considéraient les traders du Chicago Merck comme représentatifs du pays? Des traders qui n'avaient pas perdu leur emploi justement parce que l'État était intervenu pour maintenir à flot le système financier. Autrement dit, c'était des conneries. Santelli le savait. Les présentateurs qui plaisantaient avec lui le savaient. Et pourtant, il était clair que les traders, eux au moins, étaient complètement d'accord avec ce que Santelli racontait. Il ne semblait pas le moins du monde saisir que le petit jeu auquel ils se livraient avait été pipé de A à Z, si ce n'est par eux, alors par leurs employeurs, qui étaient les vrais flambeurs de l'histoire dans leur salle de conférence lambrissée. Il ne semblait pas se formaliser du fait que pour chaque pauvre type qui avait fait un achat immobilier au-dessus de ses moyens, 20 autres avaient été raisonnables, mais souffraient maintenant des retombées des paris hasardeux de Wall Street. Non, ces traders étaient vraiment contrariés, persuadés qu'ils allaient se faire avoir à cause de l'État. Ils étaient convaincus d'être les victimes. L'un d'eux s'était même confié au micro de Santelli pour déclarer que notre plan logement était un aléa moral, convoquant un terme économique qui était entré dans le lexique populaire, utilisé pour expliquer comment des politiques qui protégeaient les banques malgré leurs pertes faramineuses pourraient avoir pour effet d'encourager des comportements encore plus imprudents à l'avenir. Or, désormais, la même expression était brandie pour prendre parti contre l'aide aux familles qui, sans qu'elles y soient pour rien, étaient sur le point de perdre leur maison. J'ai interrompu la vidéo, irrité. C'était un truc classique, me suis-je dit, le genre de tour de passe-passe rhétorique qui était devenu monnaie courante chez tous les commentateurs conservateurs, quel que soit le sujet. S'approprier le langage jadis utilisé par les classes défavorisées pour mettre en lumière un mal sociétal et en retourner le sens. Le problème n'est plus la discrimination contre les personnes de couleur, selon leur argument, c'est le racisme anti-blanc, les minorités jouant la carte raciale pour obtenir un avantage non mérité. Le problème n'est pas le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ce sont les féminazis dépourvus d'humour qui assomment les hommes avec leur politiquement correct. Le problème, ce ne sont pas les banquiers qui utilisent les marchés comme leur propre casino ou les grandes entreprises qui compriment les salaires en démantelant les syndicats et en délocalisant les emplois. Ce sont les feignants et les vauriens, avec la complicité de leurs alliés gauchistes à Washington, dont le but est de parasiter les vrais piliers de l'économie, ceux qui se retroussent les manches. De tels arguments n'avaient rien à voir avec la réalité. Ils ne résistaient pas un instant à l'analyse. Ils s'enfonçaient plus en profondeur dans le royaume du mythe, redéfinissant ce qui était juste, indiquant qui étaient les nouvelles victimes, offrant à des gens comme ces traders de Chicago le plus précieux des cadeaux. La conviction de l'innocence, ainsi que l'indignation vertueuse qui l'accompagne.